Louvoir
Podcast. Bob Dylan, un récit initiatique. Artiste aux multiples visages, Dylan a tour à tour été un receleur inspiré des trésors de la musique populaire américaine, un chanteur pamphlétaire proche du mouvement des droits civiques, un poète aux introspections symbolistes. Il a aussi représenté une aubaine pour l'industrie du disque, un prince qui a su transformer la folk en or. Pour rendre compte de ces différentes facettes, nous revenons ici sur les premières années de Dylan à New York et les rencontres qui ont marqué son cheminement. Lorsque Dylan arrive à New York, à 19 ans, en 1960, il dispose déjà d'une solide culture musicale. Pendant toute sa jeunesse, il a écouté et appris les morceaux de blues, country, folk, diffusés dans les radios du Midwest. Ces émissions représentaient une ouverture précieuse sur d'autres horizons. Avant que la télé et les médias ne s'emparent de tout, les gens s'informaient à travers les chansons. Ils les écoutaient attentivement et s'allaient renseigner sur ce qui se passait loin de chez eux, explique Dylan dans une interview en 1997. Dylan arrive à New York, délaissant ses études d'art à Minneapolis, pour rencontrer Woody Guthrie. Folk singer reconnu, engagé dans les luttes sociales, Guthrie est à cette époque une figure du Greenwich Village, QG du milieu folk contestataire new-yorkais. Bien que gravement malade, il accueille avec intérêt ce drôle de gamin qui vient le visiter à l'hôpital, davantage frappé par sa voix que par ses textes. Ce gosse a vraiment de la voix. Je ne sais pas s'il réussira par ses paroles, mais il sait chanter. Pour l'aider à se former à l'écriture, il lui donne accès à ses archives, ses textes, parfois inédits. Guthrie l'introduit dans le milieu folk new-yorkais. Dylan est curieux et apprend vite. Il s'y intègre rapidement, y approfondit sa culture musicale. Il rencontre les figures de Greenwich Village, joue dans des bars, accompagne les musiciens. Lors d'un enregistrement, il est repéré par John Hammond, dénicheur de talent pour Columbia. Il enregistre un premier album qui sortira en 1962, qui se vendra assez mal. L'album est représentatif de son répertoire de ses premières années à New York. Il comprend principalement des reprises de vieux standards, folk, blues, country, et deux chansons écrites par Dylan. L'écriture de Dylan n'est pas encore au point. Sa conscience politique relève tout au plus d'une sympathie spontanée pour les thématiques contestataires des chansons de Guthrie et d'autres folk singers qu'il admire. De l'influence de Suzanne Rotolo et du mouvement des droits civiques. En 1961, à l'occasion d'un concert, il fait la rencontre de Suzanne Rotolo, avec qui il aura une relation jusqu'en 1964. Celle-ci aura une influence considérable sur Dylan. Suze est issue d'une famille italienne et ses parents sont membres du Parti communiste américain. Au moment où elle rencontre Dylan, elle milite à plein temps au sein d'une organisation au cœur des luttes pour les droits civiques. Des luttes qui vont imprégner le travail artistique de Dylan. Ainsi, le récit par Suzanne d'un brutal crime racial lui inspire « The Death of Emmett Till ». Le succès de cette chanson l'incite à poursuivre sur la voie des topical songs, mêlant le format des chansons folk ou des blues parlés, avec des événements marquants de l'actualité sociale, dans la lignée des chansons contestataires de Woody Guthrie. Dylan considérait alors The Death of Emmett Till comme l'un de ses meilleurs textes. Il explique dans ses mémoires « Combien de nuits je suis resté éveillé à écrire des chansons et les montrer à Suze en lui demandant « C'est bien ?» Parce que je savais que sa mère était impliquée avec des syndicats et elle était dans ses histoires de droits civiques bien avant moi. Comme ça, je vérifiais mes chansons. » Dans le sillage de l'activisme de Suze Rotolo, Dylan fait ses armes de chanteur contestataire. Une image renforcée par sa participation à des événements militants majeurs, encore une fois grâce à Rotolo, comme la marche sur Washington en 1963. Il y chanta notamment « Only a pawn in the game » qui traite de l'assassinat du militant pour les droits civiques, Medgar Evers. Suzanne Rotolo n'est pas seulement une militante active. Elle dispose par ailleurs d'une importante culture littéraire et artistique. Elle introduit Dylan aux œuvres de Brecht, Artaud, Verlaine, Rimbaud, ainsi qu'à d'autres auteurs plus contemporains, à la peinture ou au cinéma de la Nouvelle Vague. Dylan se nourrit de toutes ses sources d'inspiration. Il reconnaîtra son influence décisive sur son style d'écriture. Suzanne Rotolo parlera, quant à elle, d'une influence réciproque. Les gens disent que j'ai eu de l'influence sur lui. Mais nous nous influencions mutuellement. Nous filtrions réciproquement nos intérêts propres. Lui, la musique, moi, mes livres. Pour Suzanne Rotolo, Dylan correspond moins au mythe du créateur inspiré et solitaire qu'à l'image d'un passeur, hors du commun. Il avait cette capacité incroyable à s'intéresser et à s'imprégner de tout. Quelque chose de l'ordre du génie, une capacité à saisir l'air du temps, le synthétiser, le rendre en paroles, en musique. De l'influence d'Al Grossman, le Spin Doctor. Après avoir signé ses deux premiers albums chez Columbia, Dylan choisit de prendre Al Grossman pour manager. Celui-ci le convainc de rompre avec John Hammond et de signer chez Warner. Al Grossman est le genre de manager à la réputation sulfureuse, dans la lignée du colonel Tom Parker, le manager d'Elvis. Sorte de spin doctor, très intuitif en termes de relations publiques, Grossman est un homme intelligent, dévoué au succès commercial de ses clients et avide de royalties. Au moment où Dylan signe avec Grossman en juin 1962, le manager est à la fois très impliqué dans le milieu de la folk, il est le cofondateur du Newport Folk Festival et le manager de nombreux musiciens, reconnu pour son travail de manager, mais décrié pour ses méthodes parfois brutales et son obsession du succès commercial. Grossman se vantait de défendre ses clients avec force et de leur apporter plus de revenus que, disait-il, les gentils managers amateurs de Greenwich Village. De telles aspirations ne faisaient évidemment pas l'unanimité parmi les activistes du folk revival, car l'engagement politique et les stratégies commerciales ne faisaient pas bon ménage. Mais le manager était aussi réputé pour défendre ses propres intérêts, comme le montre cette anecdote. Peu après avoir signé Dylan, Grossman négocia le transfert de ses droits de publication de Duchess Music à Whitmark Music, filiale de la Warner, avec qui Grossman avait négocié en secret 50% des droits pour les artistes qu'il parvenait à faire signer avec la maison d'édition. S'il s'intéresse au mouvement folk et à ses protest songs, c'est avant tout pour le potentiel commercial qu'il y présentait. Le public américain est comme la Belle au bois dormant qui attend le baiser du prince de la folk, expliquait Grossman au New York Times lors de la première édition du Newport Folk Festival. Son prince, il va le trouver en la personne de Bob Dylan. Le succès de Blowing in the Wind va l'en persuader. Cette chanson, que Dylan avoue peu estimée par ailleurs, connaît d'abord le succès dans le milieu folk contestataire. Grossman contribue à en faire un hit commercial, flairant la chanson à succès. Il en suscite d'abord d'innombrables reprises commandées aux artistes du catalogue de la Warner qui disposent désormais, grâce à Grossman, des droits sur la chanson. Parmi le nombre incalculable de singles de la chanson, celui de Peter, Paul and Mary, un groupe par ailleurs constitué de toutes pièces par Al Grossman, connaîtra un succès mondial. Un succès qui contribuera à construire l'image de Dylan comme icône du chansonnier folk contestataire dans le grand public. Un statut que tout bon manager sait monnayer en pièces sonnantes et trébuchantes. Grossman a ses entrées dans la scène folk. Il fait jouer aux bons endroits, au bon moment, pour lui garantir une renommée grandissante. Dylan est ainsi invité à se produire au Newport Folk Festival d'août 63, 3 mois après la sortie de son album Freewheeling Bob Dylan, et alors que les ventes du single de Blowing in the Wind sont au plus haut. Il apparaît 2 fois sur scène avec John Baez, elle-même au sommet de sa gloire. Le succès de Blowing in the Wind et sa prestation complice avec la reine du folk contribuent à faire exploser les ventes du Freewheeling Bob Dylan. Les portes du succès s'ouvrent grand devant Dylan. Dans le même temps, sa relation avec Suzanne Rotolo se détériore peu à peu. En 1964, il se sépare finalement et cette rupture correspond à l'évolution d'un processus dans la carrière de Dylan. Which side are you on? Grossman joue un rôle important dans la mue du jeune chanteur qui s'éloigne du milieu de la musique folk et rompt avec les chansons contestataires. Lors de la sortie de Another Side of Bob Dylan en 1964, Dylan expliquait déjà. Il n'y aura pas de chansons protestataires dans cet album. Ces chansons, je les avais faites parce que je ne voyais personne faire ce genre de choses. Maintenant, beaucoup de gens font des chansons de protestation, pointant du doigt ce qui ne va pas. Je ne veux plus écrire pour les gens, être un porte-parole. Je veux que mes textes viennent de l'intérieur de moi-même. Fini les frusques de Hillbilly, Dylan s'habille comme un dandy sur le conseil de son manager. Grossman, ainsi Dylan, a quitté définitivement son producteur John Hammond, avec qui il ne s'entend pas, pour Tom Wilson, qui ne se distinguait pourtant pas particulièrement par son goût pour la folk. Moi qui avais enregistré Coltrane, Sun Ray, je pensais que la folk, c'était pour les imbéciles. Bob Dylan jouait comme ces imbéciles, mais quand j'écoutais les paroles, j'ai été époustouflée. On suggère à Dylan des musiciens pour l'accompagner, batterie basse, guitare, électrique, Al Cooper, Mike Bloomfield notamment, et permettre une évolution de son style musical. Dans la seconde partie de sa carrière, celle de la trilogie électrique, Dylan puisera son inspiration dans son vécu, ses expériences personnelles. La rupture d'avec la folk est mise en scène en 1965, lors du festival de Newport, lorsque Dylan joue avec sa nouvelle formation ses nouveaux morceaux électriques, devant le public acquis à la folk. Il se fera copieusement huer par le public. Like a Rolling Stone symbolise ce tournant qui est ressenti par une partie du milieu folk comme une trahison. Pour Dylan, c'est aussi une déchirure dont il témoigne dans Desolation Row, lorsqu'il évoque la réaction d'une partie du public qu'il accuse de traîtrise. And everybody's shouting, which side are you on? Cette controverse le suivra lors de sa tournée européenne en 1965, au cours de laquelle il est régulièrement hué lors de ses sets électriques. En 1965 et 1966, Dylan va multiplier les tournées. Entre drogue, concerts, sollicitations des journalistes, des fans, le rythme est effréné, inhumain. Les dates s'enchaînent. Les amphétamines aident à tenir. Grossman s'assure que son client ne manque de rien. Au cours des concerts, Dylan se fait souvent huer lors de ses sets électriques. Fin 1965, il est épuisé et là après sa tournée européenne. Il finit par mettre en scène son évasion de la prison dorée du succès. En 1966, il prétexte un accident de moto pour se mettre en retrait. Cet accident, qu'il ait vraiment eu lieu ou non, revêt une portée symbolique. Il marque la mort de Bob Dylan, version vedette, façonnée par Al Grossman. Peu de temps après l'accident, Dylan rompt son contrat avec son manager. Revenant sur cette rupture, Dylan explique « En vérité, j'en avais assez de courir comme un rat après le succès. » C'est pour Dylan le commencement d'une nouvelle étape de sa carrière, désormais comme franc-tireur de l'industrie du disque. »